Prenons nos Bibles et regardons ensemble de nouveau dans le prophète Ésaïe, le chapitre 17. Mon texte, c'est tout le chapitre que nous allons considérer ensemble, Dieu voulant. Et j'ai intitulé cette étude « Les jugements de Dieu contre les idolâtres ». Je sais que souvent, les gens ne se voient pas comme idolâtres parce qu'ils sont peut-être dans une religion où ils renoncent ce qu'on appelle l'idolâtrie, c'est-à-dire ils n'adorent plus les cailloux ou les arbres ou les objets. Donc, ils ne se voient pas comme idolâtres. Mais la définition biblique de l'idolâtrie, c'est lorsque quelqu'un cherche à s'approcher de Dieu d'une autre manière que Dieu lui-même a ordonné, c'est-à-dire à travers le Seigneur Jésus-Christ seul et son sacrifice sanglant seul. À part cela, toute forme d'adoration, c'est de l'idolâtrie. On peut retourner jusqu'à dans le jardin et dire que la chute d'Adam et Ève était à cause de l'idolâtrie. Dieu avait dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance de bien et de mal, et que toute leur joie devait être dans cet arbre de vie qui représentait Christ. Mais voilà, Satan les a tentés pour qu'ils regardent ce que Dieu a défendu, a interdit, et donc pour cela, le péché est entré dans le monde. Et depuis lors, tous ceux qui sont nés dans cette chair sont fils d'Adam et donc idolâtres de nature. Je dis tout cela pour dire que dans ce chapitre 17, nous avons de nouveau le jugement prononcé contre deux nations. Jusque-là, nous avons déjà vu comment Dieu a annoncé le jugement qui devait venir sur Moab et sur les Philistins et aussi même la Syrie, qui était la nation que Dieu a suscitée pour emmener les 10 tribus du nord d'Israël en captivité. Mais ici, il revient encore sur ces jugements, mais cette fois-ci contre Israël, c'est-à-dire les 10 tribus du Nord. Donc, quand vous étudiez les prophètes, vous allez toujours voir deux noms donnés au peuple d'Israël. Il y a Israël et puis il y a Juda. Israël représentait les 10 tribus du Nord après la mort de Salomon qui se sont séparés et aller établir un nouveau lieu de culte en Samarie. Et ils ont ramené de nouveau l'adoration des veaux d'or. C'était pire même que ce que c'était au temps d'Aaron, lorsqu'il y avait un veau d'or. Mais ici, ils ont établi deux pour multiplier encore leur condamnation. Alors, ça c'est Israël qui est mentionné ici dans le chapitre 17, mais aussi Damas qui représentait le pays de Syrie. Et c'est un peu difficile parfois quand on prononce ces mots, mais quand on les lit, on voit la différence. Il y avait une nation de la Syrie, les Syriens, ça commence avec S, Y. Et ça, c'était au nord-est d'Israël. Cela continue aujourd'hui. Il y a des batailles, des combats qui continuent jusqu'à nos jours. Souvent, vous allez entendre parler de cela dans les nouvelles. Mais il y avait aussi les Assyriens. Ça commence avec A-S-S-Y. Et cela était une nation au nord de ce que nous connaissons aujourd'hui comme Irak. Et à ce temps-là, c'était une nation séparés, parce que plus tard, ceux de Babylone se sont soulevés contre les Assyriens pour les anéantir. Et aujourd'hui, il n'y a que les Irakiens, mais on peut dire qu'il y a des traces, des racines de ceux qui est de l'ancienne Assyrie aussi qui existent aujourd'hui. Donc ici, nous avons ces menaces de Dieu. Et je dois dire, quand je dis menaces, ce ne sont pas des menaces sans suite. Ce que Dieu menace, il en fait juge. C'est pourquoi aujourd'hui, dans nos pays, on entend parler des menaces du jugement de Dieu contre l'idolâtrie et contre toute fausse religion. Mais puisque cela n'arrive pas immédiatement, les gens oublient et ils continuent sur leur voie, pensant que non, peut-être que ce n'est pas contre moi que ces menaces sont adressées. Mais je dois dire que lorsque nous prêchons, nous devons annoncer ces menaces avec sûreté, que si quelqu'un n'est pas en Christ, si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort pour un pécheur, donc les menaces sont réelles et vraies, et même si quelqu'un vit toute sa vie dans un certain succès, parce que Dieu est miséricordieux et il bénit même les réprouvés avec un certain succès, mais tout cela c'est temporaire, que le jour vient où Dieu doit exercer son jugement, même si ce n'est pas la fin du monde. Chaque fois que quelqu'un meurt, quelle que soit la manière qu'il meurt, c'est Dieu qui exerce son jugement. Et on peut dire que c'est là, surtout pour les réprouvés, ceux qui ne sont pas les élus, le jour de leur mort et l'accomplissement de ces menaces de jugement. Mais ici, nous voyons donc dans les versets 1 à 11, la Syrie, la nation de Syrie et Israël menacés. Et je vais lire ces versets bientôt. Et puis dans les versets 12 à 14, nous voyons le malheur décrit sur les ennemis d'Israël. C'est intéressant parce que Dieu a suscité la Syrie pour exercer ses jugements contre Israël. Ça, c'est la première partie, versets 1 à 11. Et puis, Dieu, en retour maintenant, menace ses ennemis qui sont venus contre Israël et les juge en même temps. Donc, lisons ici dans le verset 1 d'Ésaïe 17, Oracle sur Dama. Ça commence avec la Syrie. Dama était leur capitale. Oracle, encore, signifie une révélation que Dieu a donné à Ésaïe, mais en même temps, le mot signifie un fardeau. Donc, tout en annonçant ce message que Ésaïe avait annoncé, ça pesait sur son cœur. Comme pour nous qui sommes des prédicateurs, ce n'est pas avec joie que nous nous levons pour annoncer les condamnations du Seigneur contre ceux qui ne sont pas en Christ. Ça pèse au cœur. Surtout quand nous considérons que ça concerne des membres de nos familles, peut-être, ou bien des amis que nous connaissons. Mais si Christ n'a pas payé leurs dettes, s'ils ne sont pas élus de Dieu, donc c'est la colère de Dieu qui demeure sur eux. Donc pour nous, ce n'est pas une simple doctrine, mais ça nous pèse au cœur de devoir annoncer cela, mais nous ne pouvons pas changer la parole de Dieu à cause de nos amis ou bien à cause de les membres de nos familles. Donc, oracle sur Dama, voici Dama ne sera plus une ville. Dama était à l'époque une grande ville et capitale, mais elle ne sera qu'un monceau de ruines. Les villes d'Aroer sont abandonnées. Ça, c'était les grandes villes qui existaient à l'époque dans cette nation de Syrie. Elles sont livrées au troupeau, ils s'y couchent et personne ne les effraie. Imaginez l'image ici que tout est tellement dévasté que même les troupeaux pèsent dans les parties et personne n'attaque ces troupeaux, ces animaux. C'en est fait de la forteresse d'Éphraïm. Donc maintenant, les versets 1 et 2 concernent le pays de la Syrie. Et maintenant, sur les 10 tribus du nord représentées par le nom Éphraïm, ici. C'en est fait de la forteresse d'Éphraïm et du royaume de Damas et du reste de la Syrie. Il en sera comme de la gloire des enfants d'Israël, dit l'Éternel des armées. En ce jour-là, la gloire de Jacob sera affaiblie et la graisse de sa chair s'évanouira. Il en sera comme le moissonneur récolte les blés et que son bras coupe les épis, comme quand on ramasse les épis dans la ville de Réphaïm. Il en restera un grappillage, comme quand on secoue l'olivier. Deux, trois olives au haut de la cime, quatre, cinq dans ses branches à fruits, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous voyez ici, au milieu de cette annonce du jugement contre les idolâtres, nous voyons quand même la miséricorde de Dieu, parce que ce qu'il est en train de dire là, c'est comme quelqu'un qui coupe son champ et ramasse les épis et le blé. Ce n'est pas tout qui est ramassé pour le jugement dans cet exemple, mais ce qui reste, il y a toujours un reste. Et ce reste représente ce que Dieu a ordonné au salut, les élus de Dieu, qu'il allait préserver, même s'il amenait ses jugements contre ces pays, il y avait toujours un reste, un résidu. Peut-être très peu, mais, et c'est pourquoi il dit là, deux, trois olives au haut de la cime, quatre, cinq dans les branches, ces branches à fruits, pas beaucoup, par rapport à ce qui a été ramassé pour le jugement, pour être brûlé, mais néanmoins un reste. Et donc nous voyons la même chose aujourd'hui. Qui sont ceux qui appartiennent au Seigneur? Souvent, on se pose la question. Je dois dire que nous qui sommes de ce résidu, ce reste aujourd'hui pour être sauvés et qui ont été sauvés par la grâce de Dieu dans la mort de Christ, nous sommes très peu. Mais néanmoins, il y a un reste. Voilà le message d'espoir. Et tout cela, c'est pour nous emmener à voir le dessein de la providence de Dieu, non seulement comme créateur, c'est lui qui est le créateur de toutes choses, mais aussi comme gouverneur, c'est lui qui dirige toutes choses. Ce n'est pas seulement comme les gens disent, mais Dieu est au contrôle. Non, il dirige. Tout ce qui se passe vient de sa main. C'est ça que nous voyons partout dans les Écritures, mais pourtant ici. C'est pourquoi verset 7 le dit, en ce jour, l'homme regardera vers son Créateur et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Voilà la véritable régénération, quand les yeux sont ouverts maintenant et de voir le Créateur, ça c'est Dieu dans sa souveraineté, de qui viennent toutes choses, mais en regardant à Dieu, de voir le Saint d'Israël, comment Dieu est saint et comment il peut être juste tout en justifiant les pécheurs. Ce n'est pas dans les œuvres des mains des hommes, mais c'est dans l'œuvre de Christ seul. Donc, vous pouvez souligner ces deux versets ici, trois versets en fait, 6, 7 et 8, comme étant un exemple de l'œuvre de la grâce de Dieu parmi le reste, parmi les élus qui existaient à l'époque et aujourd'hui. aussi. C'est écrit, verset 8, il ne regardera plus vers les autels. Notons, ouvrage de ses mains. Voilà encore pourquoi Dieu juge une nation. C'est à cause des œuvres des mains des hommes. Et ça peut être des gens qui sont très religieux, zélés. Comme Paul disait des Juifs de son jour, ils sont zélés mais sans la connaissance de Dieu, sans être soumis à la justice de Dieu qui est Jésus-Christ. Mais ceux qui sont de ce reste que Dieu a préservé, en même temps, il leur a donné l'esprit pour ne plus regarder vers les autels, c'est-à-dire la fausse adoration, ouvrage de ses mains, et il ne contemplera plus ce que ses doigts ont fabriqué. Nous avons beaucoup de religions aujourd'hui, d'adorateurs qui s'approchent de Dieu avec les œuvres de leurs mains. Ils imaginent qu'ils ont quelque chose à contribuer pour que Dieu fasse grâce envers eux. Mais toujours est-il, cela ne fait qu'attirer le jugement, la colère de Dieu. C'est écrit, les idoles d'Astarté et les statues du soleil. Voilà un des dieux de la Syrie, Astarté. C'était un dieu, une déesse, si on peut bien le dire, de qui venait, selon eux, la fertilité. Et donc, c'est ces idoles qu'ils adoraient à l'époque que Dieu dit maintenant, ceux qui lui appartenaient ne regarderaient plus à ces idoles et les statues du soleil. Voilà les choses qu'ils adoraient. Des dieux selon leur imagination, mais pas le Dieu, le véritable Dieu. Alors, verset 9, en ce jour, ces villes fortes seront comme des débris dans la forêt et sur la cime des montagnes abandonnées devant les enfants d'Israël. Et ce sera un désert. Voilà l'image du véritable jugement de Dieu. C'est qu'il condamne tout ce que l'homme fait et tout ce que l'homme fait de s'approcher de lui par les œuvres de leurs mains. Et on doit y mettre aujourd'hui comme idolâtrie toute cette notion, cette fausse notion du libre arbitre de l'homme, imaginant que Dieu a fait tout ce qu'il peut pour le salut d'un pécheur, mais hélas, ça dépend maintenant de l'homme et de son libre arbitre. Ça, c'est de l'idolâtrie, d'imaginer que quelque chose en l'homme peut soit initier ou empêcher quoi que ce soit en ce qui concerne Dieu, car tu as oublié le Dieu de ton salut. Voilà le défaut. Voilà l'aveuglement. Il n'y a qu'un seul Dieu de salut, et c'est le Dieu souverain. C'est lui qui a élu ceux qu'il veut sauver, et il a envoyé son Fils pour donner sa vie pour cela. Ça, c'est le Dieu du salut. Les gens peuvent repousser pour dire non, mais ce n'est pas juste le fait que Dieu ne sauve pas tout le monde. Mais l'homme ne mérite pas le salut. Le salut dépend de Dieu et non pas de l'homme. J'entends certains dire, oui, mais je crois que Dieu doit donner à tout le monde au moins la chance d'être sauvé. Non, le salut n'est pas par la chance. Le salut est par la décision délibérée de Dieu lui-même depuis avant la fondation du monde. Et il exerce sa volonté envers ses créatures comme il veut. Qui est l'homme pour contester avec Dieu? Mais voilà ce qui amène la condamnation. C'est écrit, tu as oublié le Dieu de ton salut. Et voilà ce que beaucoup ont oublié aujourd'hui. Ils ont la Bible, ils sont en train de lire ces mêmes versets que nous lisons, mais sans voir Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles. Ils cherchent, même dans les Écritures, les choses qui les concernent. Ils veulent, en lisant certains passages, s'attribuer ces versets à eux-mêmes, pensant qu'ils ont peut-être une petite bénédiction de la part de Dieu parce qu'ils s'imaginent que cela s'adresse à eux. Par exemple, quand ils citent Jean 3, 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde », ils imaginent que « Ah, donc cela veut dire Dieu m'aime, non ?» Dans le verset même, ça ne dit pas qu'il aime tout le monde. Dieu a tant aimé le monde. En fait, dans le grec, ce mot « tant » signifie « Dieu de cette manière a aimé le monde ». Mais comment est-ce qu'il a aimé le monde? Il a donné son Fils unique afin que quoi? Quiconque croit en lui ne périsse point. Ça ne dit pas simplement « quiconque ». Ce n'est pas pour quiconque, mais quiconque croit. Mais d'où vient cette foi? C'est Dieu qui doit donner cette foi, parce que l'homme laissé à lui-même ne peut jamais croire. Mais Dieu décide ces choses. Voilà le Dieu que nous avons et nous prêchons. Mais la colère de Dieu est contre ceux qui l'oublient et qui ne lui donnent pas cette gloire dans le salut. Le problème, ça continue dans le verset 10, c'est que tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge. Qui est ce rocher? Ce rocher, c'est Christ. Donc, le Dieu de notre salut et du salut est le rocher de notre force. Et le fait de l'oublier, le fait de vouloir s'approcher d'une autre manière que Christ, c'est rien que attirer sa condamnation. Il est le seul refuge. Sa mort accomplie à la satisfaction de Dieu le Père. Voilà le refuge de tous ceux que Dieu sauve. Alors, c'est écrit aussi, tu as fait des plantations d'agrément et tu as planté des ceps étrangers. C'est une manière de parler, de semer la fausseté avec ce qui est vrai. Mais si tu prends le levain et tu agites ça maintenant dans le mix, vous allez voir que cela affecte tout le pain. Et voilà pourquoi Dieu doit rejeter cela. Verset 11, « Lorsque tu les plantas, tu les entouras d'une haie, et bientôt tu les fis venir en fleurs. Mais la récolte a fui au moment de la jouissance, et la douleur est sans remède. » Ça donne encore l'exemple de ceux qui travaillent et œuvrent. Pour eux, ils disent qu'ils sont au service du Seigneur et en quelque sorte plantent et entourent leurs ouvrages, leur organisation, leurs efforts d'une haie. Et au moment où ils pensent pouvoir se réjouir, voilà, tout est dissipé. Et la douleur est sans remède. Telle est la condamnation qui attend ceux qui cherchent à s'approcher. La diligence, quelle que soit la diligence, ne serait pas favorable pour ceux qui, comme c'est écrit, la plantent des ceps étrangers. Cela veut dire prendre l'évangile et mélanger ça en quelque sorte avec les œuvres des mains des hommes. Cela ne peut pas réussir. Alors, voilà ce que nous avons vu, la Syrie et Israël, les 10 tribus du Nord menacées. Maintenant, en venant dans les chapitres 12 à 14, pour terminer cela, c'est ici que nous voyons comment Dieu allait donc détruire la nation de la Syrie qu'il a soulevée pour emmener le jugement contre Israël et contre la Syrie. Mais maintenant, Dieu prononce des menaces contre la nation de la Syrie. Et nous voyons dans le verset 12, « Oh, quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte de nations! » Elle gronde comme grondent les eaux puissantes. Les nations grondent comme grondent les grandes eaux. et les menace, et elle fuit au loin, chassée comme la balle des montagnes au souffle du vent, comme la poussière par un tourbillon. Quand vient le soir, voici, c'est une ruine soudaine. Avant le matin, ils ne sont plus. Voilà le partage de ceux qui nous dépouillent. C'est pourquoi je disais ici, c'est une prophétie contre la nation de l'Assyrie, les Assyriens qui ont fait ravage, mais maintenant Dieu annonce que leur tour vient, où il allait aussi les condamner. Et c'est ça que nous allons voir la prochaine fois, surtout dans le chapitre 18. Tout le chapitre 18 est un jugement prononcé contre l'Assyrie. Donc, cela sera le commentaire sur ces versets que nous sommes en train de voir ici. Mais le sommaire de ces versets 12 à 14, c'est que la rage et la force des Assyriens, quoique ça ressemblait aux eaux puissantes de la mer, si vous avez jamais été au bord de la mer, vous savez de quoi il s'agit ici, les vagues qui viennent, mais qui s'en vont. Les vagues viennent jusqu'à un certain point et puis retournent. Et ça, c'est l'image que Dieu est en train de donner concernant les Assyriens, comme des vagues qui sont entrées dans le pays et ont fait ravage contre les 10 tribus du nord d'Israël et aussi de Damas. Mais maintenant sont reculés et qui s'enfuient comme de la paille ou bien comme une chose qui roule devant le tourbillon. Il est en train de parler là de la destruction qu'il allait amener contre la Syrie. Et cela s'est passé quelques centaines d'années plus tard lorsqu'il a suscité la nation de Babylone contre la Syrie et a complètement détruit les Assyriens. Alors, ça démontre ici l'image comme le soir, c'est comme si Jérusalem même était en difficulté, et là nous savons, parce que le roi de l'Assyrie avait menacé même Jérusalem, qui était au sud, en Juda, et le temple. Et les armées sont venues jusqu'au bord de la ville, mais n'ont pas pu entrer parce que Dieu avait tué quelques 100 000 personnes dans une seule nuit, ce qui a fait que le roi de l'Assyrie a dû retourner dans son pays et quelques années plus tard, il était assassiné par ses propres fils. Ça, c'est un exemple de ce que Dieu dit quand il dit que la Syrie, les Assyriens ressemblent à ces eaux puissantes de la mer qui viennent jusqu'à un certain point, mais après doivent reculer. Alors, quoique le soir, Jérusalem était en difficulté à cause de ce puissant envahisseur, mais levé le matin, l'armée devait être presque coupée. Ça nous montre parfois, lorsque, à la fin de la journée, quelques difficultés que nous avons traversées, nous ne pouvons pas même imaginer une voie pour nous faire sortir de cette difficulté et nous allons au lit la nuit. Et puis le lendemain, brusquement, les choses changent. Et au lieu d'une mauvaise nouvelle, voilà, maintenant c'est une bonne nouvelle. Qui fait ça? C'est Dieu. Alors, ici, heureux sont ceux qui maintenant se souviennent de Dieu comme leur salut et quoi, comptent sur sa puissance et sa grâce. Voilà ce qui est notre refuge si nous sommes de ce reste que Dieu a préservé. Quels que soient les troubles de ceux qui sont enfants de Dieu et quels que soient la prospérité apparente de nos ennemis. Nous savons que tout cela n'est rien, que Dieu agit selon sa volonté et il accomplit ce qu'il a promis envers les siens. Donc, c'est vrai, les croyants doivent traverser des moments difficiles. Il semble que les ennemis sont ceux qui prospèrent, mais il faut dire que la durée est courte pour les deux, parce que nos afflictions et nos troubles en tant qu'enfants de Dieu ne sont que pour un moment. Mais aussi, le succès et la prospérité des ennemis de Christ et les ennemis de son Église, sa durée aussi courte. Mais quand on pense aussi au fait que la joie des croyants, lorsque Dieu exerce sa puissance et sa grâce à cause de Christ, ce n'est pas à cause de quelque chose en nous, mais à cause de Christ, quelle joie, et cela dure à toujours. Pourtant, la joie de ceux qui haïssent Christ et qui menacent son Église, sa joie est courte et la peine est pour toujours. Pour les croyants, la joie est pour toujours. Pour les nations, pour les idolâtres, la peine est pour toujours. Alors voilà, comme je disais, le sommaire de ces versets 12 à 14. Les nations représentent d'autres nations comme Babylone qui devait se lever contre la Syrie et ces nations devaient précipiter comme de nombreuses eaux contre la Syrie. Cela nous montre que Dieu est souverain et il utilise les hommes et les nations pour accomplir sa volonté, quelle que soit l'idolâtrie de ces nations. Et il fait en sorte pour porter le jugement contre la Syrie et Israël ici. Ils viendront contre eux comme une crue et claire qui ne peut être arrêtée. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons une nation soulevée contre une autre. Il y a d'autres qui sont en paix pour le moment, mais demain seront maintenant en guerre. Nous ne savons pas, mais tout ce que nous savons, c'est que c'est Dieu qui fait tout cela à sa gloire. C'est pourquoi, quel que soit l'instrument que Dieu utilise, les hommes païens qui pourront accomplir ces jugements, ou en fin de compte, c'est Dieu qui les réprimandera. Quand Dieu amène la ruée des nations contre Israël, cela ne signifie pas que les nations qu'il utilisait pour juger marcheront avec lui et seront exempts eux-mêmes de jugement. Ils ne sont que des instruments dans la main d'un Dieu souverain pour accomplir sa volonté. C'est Dieu qui sauve et c'est Dieu qui condamne selon sa volonté. Donc, au lieu de penser, comme nous lisons ici, que ces nations devaient être exemptes du jugement, c'est le contraire. Le message ici, c'est que Dieu réprimandera tout pécheur. Et pour cela, ils doivent s'enfuir loin de lui. La réalité, c'est que Dieu peut utiliser un pécheur pour en juger un autre, et puis juger le pécheur qui vient d'utiliser. L'homme naturel ne peut pas accepter cela. Il trouve en cela l'injustice. Mais c'est parce que l'homme naturel ne voit pas qu'il est lui-même l'objet du jugement de Dieu si Dieu ne lui fait pas grâce en Jésus-Christ. Alors, nous avons ici un principe quand même réconfortant, au moins pour moi. Même au milieu du jugement, Dieu fait miséricorde. Aussi mauvais que cela allait être pour Israël, cela aurait pu être pire. Dieu aurait pu complètement détruire ce peuple. Mais c'est parce que Dieu a promis préserver un reste de qui devait venir le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il n'a pas complètement détruit cette nation. Au lieu de cela, Dieu les permettait pour un temps d'avoir un certain succès, même en attaquant Israël. Et en fin de compte, puisque Dieu a ordonné être miséricordieux, c'est pour cela qu'il n'était pas complètement détruit. Israël n'était pas à la merci de ses circonstances ou de ses ennemis. Heureusement, ils étaient à la merci de Dieu. Et voilà comment nous vivons. Nous ne sommes pas, heureusement, à la merci des hommes méchants qui détestent notre Seigneur Jésus-Christ et ainsi nous détestent. Christ a dit ça à ses disciples. Ils m'ont haï, donc ils vont vous haïr. Ça, c'est ce que nous pouvons anticiper. Mais Dieu ne nous livre jamais à la merci de ce monde ou bien des ennemis. Si nous sommes en Christ, nous sommes toujours entre ses mains. Et voilà ce qui nous réconforte. C'est un très bon passage pour nous de voir la souveraineté de Dieu exerçant ses jugements ici contre les idolâtres. Mais on doit se poser la question, pourquoi pas moi? Pourquoi je ne suis pas condamné avec le reste? Et là, nous pouvons simplement dire, c'est grâce à la volonté de Dieu, à son choix qu'il a porté sur un pécheur tel que je suis et pour qui il a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, me sauver par son sang à la croix. Voilà ma justification et voilà mon salut. Alors que le Seigneur soit béni en ce que nous venons d'entendre. Amen.